Je vous remercie. Je remercie les organisateurs du colloque de m'avoir invité à intervenir. Intervenir aujourd'hui parce que François Bourguignon ne peut rentrer à Paris que ce soir et nous avons donc permuté nos deux interventions. Certes, je suis à l'école polytechnique, mais j'enseigne aussi à Columbia University à New York et au printemps dernier, j'ai pris 2 jours de relâche dans l'enseignement pour aller rendre visite à un collègue physicien au MIT. Il s'appelle Joel Schindal, peut-être un jour son nom sera-t-il célèbre. Il travaille sur une innovation qui pourrait être de très grande portée pour le climat et pour le développement durable. Il s'agit d'une batterie purement physique, sans aucun recours à des réactions chimiques. Alors, le principe de cette batterie, c'est qu'on empile des électrons dans des millions de nanotubes de carbone qui ont des propriétés électriques tout à fait extraordinaires par rapport aux propriétés électriques que nous observons dans le monde de tous les jours. Avantage numéro un de cette batterie, elle a une espérance de vie qui est plusieurs fois supérieure à l'espérance de vie des machines, par exemple automobiles, dans lesquelles on pourrait l'installer. Avantage numéro 2, probablement l'avantage décisif, elle se recharge en 3 minutes, au lieu de plusieurs heures pour les batteries chimiques auxquelles nous sommes habitués. Autrement dit, peut-être un jour, irons-nous à la pompe à électrons, exactement dans les mêmes conditions que nous allons à la pompe à essence à l'heure actuelle. Inconvénient, elle n'a pas encore la puissance suffisante et Joel Schindal pense en avoir encore pour 3 ou 4 ans de travail pour atteindre une puissance qui ferait que les véhicules hybrides pourraient être essentiellement électriques et accessoirement à essence, alors qu'à l'heure actuelle, ils sont essentiellement à essence et accessoirement électriques. Donc, voilà une batterie, voilà une innovation d'une grande portée potentielle. Mais que vaut une innovation si on ne peut pas en assurer une diffusion assez large? Et comment cette diffusion pourrait être réalisée, et comment d'ailleurs même l'innovation pourrait-elle apparaître, si on n'a pas une gouvernance adéquate des processus d'incitation et de diffusion des innovations? Et c'est ce dont nous discutions dans son laboratoire, après que j'ai fait la visite du laboratoire. Je ne suis plus un physicien, je ne suis pas ignare quand même dans le domaine, car je l'ai été. Est-ce que je la brevette? Et est-ce que je vends, au plus offrant, une licence exclusive? Première question posée par Schindal. Je pourrais déjà, presque maintenant, la vendre, bien que je n'ai pas encore la puissance suffisante, à un grand constructeur automobile. Le visiteur qui viendra après vous, c'est la direction scientifique de BMW. Mais je me souviens de Newton. Certes, je pourrais y gagner des millions de dollars. Certes, le MIT pourrait simultanément partager le butin. Bon, j'ai 50 ans. J'ai gagné beaucoup d'argent dans la Silicon Valley avant de devenir professeur sur la chaire d'électricité industrielle au MIT. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est que si j'y arrive, elle est une diffusion aussi large et aussi rapide que possible pour apporter une contribution vraiment significative aux problèmes que nous avons avec le climat et le développement durable. Je ne veux pas, a-t-il dit dans un raccourci assez joli, privatiser les épaules des géants. Mais il faut bien que je la protège. Si je ne la protège pas, on me volera l'invention. Avec le système actuel, le laxisme, la perversion actuelle du système de protection de la propriété intellectuelle aux États-Unis, il y aura toujours quelqu'un qui parviendra à breveter mon invention et à en tirer les avantages dans le cadre d'un contrat d'exclusivité. Il faut que je fasse quelque chose. Alors peut-être que je puis faire comme Boyer et Cohen, c'est-à-dire breveter, donc protéger, et vendre, enfin le MIT vendra des licences à des prix très raisonnables, de façon à ce que la diffusion soit large, et puis comme eux d'ailleurs, pour tout usage non commercial, la licence serait gratuite. Boyer et Cohen sont les deux biologistes californiens qui ont inventé la technique fondamentale du génie génétique et qui ont imposé à leurs deux universités, Stanford et Berkeley, et l'Université de Californie à San Francisco, précisément de diffuser très largement la possibilité d'acheter des licences sur leurs procédés. C'est resté un point de repère pour une bonne utilisation de la protection par brevet. Ou bien peut-être que ce que je peux faire encore, et là il faisait allusion à l'expérience qu'il avait acquise à la Silicon Valley avec l'informatique, ce que je peux faire encore, c'est mettre mon invention en open source, comme disent les informaticiens. C'est-à-dire en utilisation libre, mais encadrée, qui précisément protège du vol, protège de l'appropriation par quelqu'un d'autre. Et si l'appropriation par quelqu'un d'autre me gêne particulièrement, c'est pas tellement parce qu'il ferait de l'argent à ma place, c'est parce que, bien entendu, il ne pourrait faire de l'argent qu'en stérilisant, d'une certaine manière, mon invention. Entre parenthèses, il n'est pas le seul à travailler là-dessus. Une des questions essentielles auxquelles s'intéressait Schumpeter, c'était comment trouver un bon compromis entre incitation à l'innovation et libre disposition de la connaissance, qui, pour reprendre un terme utilisé tout à l'heure par Roger, est un bien public, quelque chose qui tire le maximum d'efficacité s'il est utilisé par le maximum d'utilisateurs sans qu'aucun d'entre eux empêche l'utilisation par les autres. Schumpeter est souvent cité, et en particulier cité par les partisans de la protection de la propriété intellectuelle par brevet, il est souvent cité comme l'homme qui a insisté sur le fait que pour qu'un innovateur soit incité à investir du capital physique, du capital financier, mais surtout son capital intellectuel et scientifique, à investir dans le travail sur une innovation, il faut que, d'une certaine manière, les fruits de cette innovation soient protégés pour lui. D'où l'idée du brevet qui, pendant 20 ans, en quelque sorte, crée un monopole de la disposition des produits tirés de l'innovation pour l'inventeur. Ce qu'on oublie souvent à l'heure actuelle, c'est que Schumpeter a bien dit les produits de l'innovation. Et il a distingué les produits de l'innovation, mis sur le marché par exemple, de la connaissance de base derrière l'innovation, qui partiellement existait et qui partiellement a été créée en même temps que l'innovation elle-même, que l'invention elle-même. Et il a fait cette distinction parce qu'il a reconnu le caractère de bien public de la connaissance, et il a reconnu que, en particulier, pour que cette innovation ne soit pas isolée, mais qu'elle se situe dans une chaîne d'innovation auquel bien des innovateurs, bien des chercheurs contribueront, il faut qu'on puisse s'installer sur les épaules des géants et que le ciel soit clair. Ou, pour le dire autrement, et le dire dans les termes de Paul David, professeur d'histoire et d'économie à l'université Stanford, il faut que les éléments de connaissance puissent, selon les talents, les hasards de la recherche ultérieure, puissent être réarrangés, recombinés de manière nouvelle et fructueuse. Ce qui n'est pas possible si l'innovation est monopolisée. Sauf, mais alors elle n'est plus monopolisée, si l'innovateur vend très largement et à des prix raisonnables, comme Boyer et Cohen, l'innovation qu'ils ont faite. Cet équilibre que voyait Schumpeter, et qui signifie qu'il y a brevet qui protège les inventions, les innovations, les produits des inventions et des innovations, mais que ces brevets sont limités de façon adéquate pour ne pas privatiser la connaissance, privatiser au sens opposé à bien public, mais cet équilibre a été rompu. Il a été rompu, en gros, à partir de l'année 1980, un peu avant, un peu après, et il a été rompu au détriment de la libre diffusion de la connaissance et donc au détriment de cet enchaînement qui fait que d'autres inventeurs, d'autres chercheurs tirent d'autres choses des connaissances antérieures que celui qui est à leur origine et qui ne pense pas à tout, et qui n'a pas des points de vue variés, il n'y a pas ces réarrangements et ces recombinaisons. L'évolution a été si profonde que même la première fonction que voulait assurer Schumpeter n'est plus correctement assurée. L'incitation à innover, qu'un brevet est supposé créer, est diluée. Elle est diluée par le fait que le brevet va s'inscrire dans une masse compliquée de brevets dans lesquels il sera difficile d'aller chercher la cohérence nécessaire pour une invention ultérieure, et tout simplement et trivialement, parce qu'il n'est pas rare qu'il arrive que ce ne soit pas le véritable inventeur qui parvienne à obtenir le brevet. Alors, à ce moment-là, bien sûr, le brevet perd toute fonction d'incitation. En outre, et même si un brevet est accordé très légitimement à l'inventeur à qui cela revient, systématiquement, l'étendue des brevets accordés, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, c'est aussi maintenant dans une certaine mesure vrai en Europe, l'étendue des brevets accordés est bien supérieure au strict domaine que l'inventeur peut réclamer comme ayant effectivement investigué et exploité pour son invention. À la limite, on donne des brevets pour des inventions triviales, voire inexistantes. Un ou deux exemples, juste pour être concret. La célèbre firme eBay, la firme qui fait des enchères, elle a notamment breveté un mode d'enchère qui était déjà pratiqué sous le règne d'Amourabi en Mésopotamie. Amazon.com a breveté l'ordre de commande en un seul clic. Ce n'est pas une invention véritablement qui nécessite qu'on l'incite par un avantage particulier. L'avantage a été acquis. Barnes & Noble, le grand libraire concurrent d'Amazon.com, a été condamné pour offrir le one-click order à ses clients. Condamné à ne plus le faire et condamné à de gros dommages et intérêts à Amazon.com. Et un grand opérateur financier américain a breveté un algorithme de sélection de portefeuille, dont Jean Tirole, que Roger a cité tout à l'heure, a montré qu'il n'était rien d'autre que l'inversion d'une grosse matrice. Ça, c'est, disons que c'est pour un peu le côté anecdotique, et peut-être un peu risible. Mais l'histoire, en vérité, n'est pas risible du tout. Et elle compromet précisément la gouvernance de l'innovation dont nous avons le plus grand besoin dans le monde d'aujourd'hui, affronté aux difficultés que Roger a décrites. Alors, je me contenterai d'une petite histoire, tout à fait sérieuse et malheureusement tout à fait représentative. En 1995, une entreprise américaine de biotechnologie qui s'appelle Human Genome Sciences dépose un brevet sur un gène. Ce gène code pour une protéine, et cette protéine, dans le langage des biologistes, s'appelle CCR5. Elle est devenue célèbre. Et Human Genome Sciences, dans la justification de sa demande, explique que cette protéine est impliquée dans des désordres inflammatoires. Pour obtenir un brevet, il y a un tel embouteillage à l'heure actuelle, spécialement aux États-Unis, qu'il vous faut 3-4 ans. entre la demande et la décision. Bien que l'examinateur du brevet, à l'heure actuelle, en moyenne, compte tenu de l'embouteillage, encore une fois, et des faibles ressources de l'Office américain des brevets, ne puisse consacrer que 24 heures à l'examen d'un brevet, ce qui explique d'ailleurs qu'il ait plutôt tendance à accepter qu'à refuser. Pendant le temps où le brevet était examiné, des chercheurs des National Institutes of Health, à Bethesda, près de Washington, ainsi que des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, ils travaillent ensemble, ont fait une découverte majeure pour la médecine. Que la protéine CCR5, celle-là même qui était en cause dans le brevet déposé un peu plus tôt, quand elle se fixe sur certaines cellules, sur la surface de certaines cellules, elle ouvre la porte au HIV, au VIH. Autrement dit, il y avait là une nouvelle ligne thérapeutique pour lutter contre la progression du sida dans un organisme. Ça a été dûment publié, mais le brevet il poursuivait son petit chemin dans les bureaux de l'Office américain des brevets, et il a été accordé en 1999. Et il a été accordé selon les méthodes qui prévalent à l'heure actuelle, c'est-à-dire très large, très étendu. On a accordé à Human Genome Sciences la propriété pendant 20 ans du gène lui-même, codant pour CCR5. Il était impossible de développer la ligne de médicaments que la découverte précédente permettait sans l'accord de Human Genome Sciences. Il était, en quelque sorte, propriétaire d'un sacré bout de l'épaule des géants en matière biologique. Human Genome Sciences a été extrêmement accommodant. Il a fourni toutes les licences qu'on voulait, moyennant un pourcentage significatif de tous les profits qui seraient faits sur tous les médicaments qui résulteraient de la découverte faite au National Institutes of Health et à Bruxelles. Il n'avait évidemment rien à voir avec la mise à jour de la propriété tout à fait fondamentale de la protéine contrôlé par le gène dont il devenait propriétaire. Ou il y a pire, c'est la saga de Myriad Genetics, une autre biotechnologique américaine, qui, elle, a obtenu la propriété de deux gènes qui ont la propriété suivante, la caractéristique suivante. S'ils ont certaines mutations, cela révèle une propension significative, élevée, au cancer du sein. Autrement dit, il y a là une mine d'or de diagnostic. Myriad Genetics a refusé d'accorder aucune licence à qui que ce soit et a utilisé, en particulier à travers les prix des diagnostics mis sur le marché, la totalité de son pouvoir de monopole aux États-Unis. En Europe, grâce à une certaine procédure à l'Office européen des brevets, l'Institut Curie, l'Institut Bordet de Bruxelles et quelques autres instituts du cancer scandinave ont pu, en quelque sorte, montrer que non seulement le brevet était beaucoup trop large et qu'il ne fallait pas le transporter en Europe, mais qu'en plus il était illégitime, parce qu'il aurait été légitime qu'il porte sur certains diagnostics, mais certainement pas sur la biologie à la base des diagnostics. Anathème pour Schumpeter. La situation est devenue invivable, comme l'atteste un grand industriel, le vice-président chargé de ces questions à Cisco Systems, peut-être la plus innovante des grandes entreprises américaines de l'électronique. Et voilà le résumé qu'en fait le Herald Tribune récemment. Patently ridiculous, c'est le titre de l'éditorial. Alors que faire dans cette situation? Quelle gouvernance rénovée peut-on concevoir et mettre en œuvre pour l'innovation, et en particulier l'innovation essentielle dans les domaines de ces enjeux essentiels que sont le climat, la santé publique et, d'une manière générale, le développement durable? Je voudrais terminer en passant en revue d'une manière un tout petit peu plus générale et approfondie que je ne l'ai fait en citant mon collègue Joël Schindal. La première voie, c'est de ne pas tuer l'innovation telle que les chercheurs, et en particulier les chercheurs universitaires, l'ont pendant longtemps conçue et pratiquée. Elle n'est pas morte, bien qu'elle soit mise en danger par beaucoup de pratiques qui, à l'heure actuelle, sont considérées comme les bonnes pratiques dans de grandes universités ou dans de grands instituts de recherche, qui sont parfois de bonnes pratiques pour certains types d'innovation, mais pas quand il s'agit de connaissances fondamentales. Elle n'est pas morte. Un exemple, deux biologistes travaillant au laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge, le même laboratoire qui était celui de Crick et Watson. Ils s'appellent Kohler et Milstein. L'un est allemand, l'autre est argentin, il travaille en Angleterre. Ils ont été les premiers à produire in vitro des anticorps monoclonaux, qui depuis ont été très très largement utilisés thérapeutiquement. Ils ont publié. Ils ont fait des conférences et tout un chacun a utilisé leur découverte, non seulement leur découverte, mais aussi leur méthodologie expérimentale telle qu'ils l'avaient mise au point. Ils ont eu la satisfaction de recevoir le prix Nobel. Je ne sais pas si c'était entré dans les incitations qu'ils pouvaient avoir. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer les systèmes d'incitation symbolique, statutaire, et dans une certaine mesure matérielle, qui peuvent exister pour ce type de recherche et ce type de démarche, sans qu'il soit nécessaire que derrière il y ait des brevets avec licence exclusive et 15 millions de dollars. Anecdotiquement, ils ont aussi attiré la colère de Mme Thatcher, qui ne comprenait pas comment l'Angleterre n'avait pas breveté une technique aussi utilisée. Deuxième possibilité, Boyer-Cohen. Boyer-Cohen, c'est une jolie histoire de recherche fondamentale au départ. C'est Cohen qui avait en tête l'idée qu'on pourrait prendre un fragment d'ADN dans un organisme, l'insérer dans une bactérie et faire à la bactérie ce que le fragment d'ADN fait faire à l'organisme. Par exemple, de l'ADN humain, commandant dans le corps humain la production d'insuline, on le transfère dans une bactérie, la bactérie devient une usine à insuline absolument pure. Il avait vu cela, il avait conçu cela, mais il y avait des étapes dans la démarche qui devait le conduire au succès, il y avait des étapes qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Il a été à une école d'été, quelque part dans les montagnes au-dessus de San Francisco, à une école d'été, c'est aussi une démarche d'échange très, très, très naturelle, en particulier au bénéfice des étudiants. Et là, il a écouté l'exposé d'un de ses collègues, qu'il ne connaissait pas, qui n'était pas dans la même université, et qui s'appelle Herbert Boyer. Il a compris que Herbert Boyer avait un certain nombre de clés qui étaient nécessaires précisément pour compléter sa propre démarche. Il aurait pu rentrer chez lui sans rien dire et essayer de toute force de reconstituer ses clés lui-même et d'en avoir donc à lui seul à la fois la gloire et éventuellement le profit. Il a eu une démarche qui nous est à tous relativement naturelle. Il a été parlé avec Boyer au dîner. Et ils ont travaillé ensemble. Et ils ont effectivement mis au point cette technique que Cohen avait envisagée. Boyer a été plus loin dans la démarche innovante. Il a créé sa biotechnologie pour exploiter dans certaines directions cette technique. c'est Genentech, une des deux plus grandes entreprises biotechnologiques américaines. Mais ni l'un ni l'autre ne voulait privatiser la technique de base. Ils s'apprêtaient donc à publier. Les deux universités, Stanford et Université de Californie à San Francisco, ont dit « pas du tout, il y a une mine d'or là, on va breveter ». Et il y a eu une tension qui reflète un peu la tension qu'il y avait eu dans l'esprit de Schumpeter. Et ils sont arrivés à un compromis. D'accord, on va breveter. Mais on va vendre à tout qui veut à un prix vraiment raisonnable. Et en plus, on donnera à tout institut ou université qui fait de la recherche non commerciale. Économiquement, ça s'est révélé en vérité un bon choix. Il y a eu tellement de clients que ça a été effectivement la mine d'or qu'espéraient Stanford et l'Université de Californie, mais ça a été compatible avec une diffusion très large. Jamais personne ne s'est plaint de ne pas avoir pu avoir accès à cette technique pour raison d'interdiction ou de prix trop élevé. C'est certainement, en quelque sorte, le bon modèle auquel on pourrait revenir dans le cadre de la propriété intellectuelle traditionnelle par brevet. Si on n'a pas le bon modèle, parfois, et si on est en quelque sorte enfermé dans la confrontation avec un monopole sur une technique ou un morceau de science vraiment important, il y a la possibilité d'émettre de la part d'autorités publiques des licences obligatoires. C'est ce que le gouvernement américain lui-même a fait vis-à-vis des divers constructeurs de matériel aéronautique et ensuite de matériel électronique, lorsqu'il a constaté qu'il y avait une telle incompatibilité entre les intérêts de ces constructeurs et une telle incapacité de leur part à travailler ensemble, que la seule façon pour assurer les besoins du ministère de la Défense nationale, du Pentagone, c'était d'émettre une licence obligatoire, c'est-à-dire une licence qui est obligée l'inventeur de fournir à un prix qui est fixé par l'autorité. C'est un petit peu le même esprit que le fonctionnement des autorités de régulation dont Roger parlait tout à l'heure, quand par exemple c'est l'autorité de régulation de l'énergie qui fixe le tarif auquel l'électricité pourra être transportée sur l'unique, évidemment unique, réseau à haute tension. Un peu l'équivalent. Le réseau à haute tension, d'une certaine manière, peut être l'équivalent du gène, qui est aussi un point de passage obligé. Et puis enfin, il y a l'open source, développement récent, développement qui résulte de la réaction d'informaticiens à la tentative de privatisation par des brevets qui n'existaient pas précédemment sur les logiciels aux États-Unis, toujours vers 1980. Alors, l'open source fonctionne par des contrats, en quelque sorte par une protection juridique qui ne restreint pas l'utilisation, mais oblige tout utilisateur qui enrichit l'instrument à le mettre en open source de son côté lui-même. Et qui interdit, bien entendu, toute prise de brevet sur ce qui a été mis en open source. Vous me direz, c'est un instrument qui marche bien pour les logiciels. Est-ce que ça a un sens de penser qu'il pourrait marcher pour autre chose, en particulier pour la fameuse batterie à propos de laquelle je commençais tout à l'heure ? On commence à penser que oui. Et une des étapes importantes a été franchie en février 2005, lorsque un groupe de chercheurs australiens et belges, comme ça, c'est pas toujours des Américains ou des Anglais ou des Français, a publié dans Nature une découverte qui a beaucoup contrarié Monsanto, l'entreprise américaine. En effet, ces chercheurs ont identifié toute une famille de bactéries substituables à Agrobacterium tumefaciens, qui était jusque-là la bactérie unique grâce à laquelle on pouvait faire des organismes génétiquement modifiés dans le monde végétal. Et cette bactérie avait évidemment été brevetée par Monsanto, n'avait pas été licenciée, et assurait à Monsanto un monopole dont nous savons tous qu'il a beaucoup usé. La famille ainsi découverte, elle n'avait biologiquement rien à voir avec la bactérie de Monsanto. Autrement dit, aussi étendu qu'ait été le brevet de Monsanto, c'était en dehors. Vous me direz, un duopole, c'est pas beaucoup moins profitable pour ceux qui sont dedans qu'un monopole. Et ces chercheurs auraient pu, en quelque sorte, créer la deuxième entreprise du duopole contrôlant cette technologie. Alors cette technologie, elle n'est pas simple. Dans une première étape, vous faites du Boyer-Cohen, c'est-à-dire que vous prenez un gène qui contrôle un caractère intéressant, par exemple résistance d'une plante à la sécheresse. Vous le mettez dans une bactérie, ça c'est bien connu, mais après, il faut que ce soit une bactérie qui, si vous l'introduisez dans une autre plante, la plante cible, lui passe le gène et donc la caractéristique, et fasse par exemple du riz résistant à la sécheresse. Ça, Monsanto savait faire, il était le seul à le faire. Il ne s'intéressait pas d'ailleurs beaucoup aux plantes résistantes à la sécheresse. Ces chercheurs ont décidé de le mettre en open source et ont calqué en quelque sorte la juridiction utilisée par les informaticiens pour protéger et diffuser en même temps leur invention. Ça a fait penser beaucoup de monde parce que ça signifie que juridiquement, on va pouvoir utiliser cette forme de protection-diffusion de certaines découvertes importantes ou de certaines inventions importantes pour bien d'autres choses que les seuls logiciels. Il y a des problèmes qui sont encore plus compliqués et pour lesquels il faut encore davantage. Il faut encore davantage de gouvernance. Un problème particulièrement compliqué est particulièrement crucial pour la protection du climat contre des dérèglements trop importants. C'est ce qu'on appelle la capture et le stockage du carbone, du CO2. Il se construit en Chine une nouvelle centrale à charbon tous les 10 jours. Les Américains ont dans leur carton 50 nouvelles centrales à charbon. Les Indiens ne sont pas en reste, bien qu'ils soient quand même un petit peu décalés par rapport aux Chinois. Si toutes ces centrales à charbon sont mises en service et si elles fonctionnent comme le fonctionnement traditionnel, avec un rendement assez bon aux États-Unis, un rendement qui reste vraiment médiocre en Chine, même avec les nouvelles centrales, on estime que ça représentera des émissions dans l'atmosphère à peu près égales à toutes les émissions qui ont jusqu'à présent été émises depuis le début de la révolution industrielle. D'où la grande importance d'arriver à capter le CO2 à la sortie ou à l'entrée, il y a des techniques différentes, de la centrale, et parvenir à en faire quelque chose. Peut-être, comme Dupont de Nemours l'annonce, avec ce carbone, faire croître des algues, en quantité évidemment astronomique, et avec ces algues, faire du biocarburant. Beaucoup de gens sérieux y travaillent. Il y a d'autres possibilités aussi. Il y a la possibilité de l'enfouissement, mais qui ne peut être réalisé que sur certains sites favorables. Il y a la possibilité, telle que la défend un de nos collègues chimistes de Columbia, de piéger ce carbone avec de l'ammoniac, et de ce fait d'avoir un résidu solide dont on disposerait évidemment plus facilement. Rien n'est au point. Combien de temps? 10, 15, 20, 25? Incontestablement, il y a urgence, parce que la courbe des émissions, elle a été de 1,5 ppm supplémentaire il y a 15 ans, puis de 2 ppm, elle est aujourd'hui de 2,5, elle ne cesse de croître, et on comprend très bien pourquoi elle croît. Et on comprend très bien que des pays comme la Chine ou comme l'Inde, vu la croissance économique qu'ils ont, émettent toujours plus vite. L'accélération est toujours plus grande que ce à quoi on s'attendait. D'où le décalage entre les rapports successifs du GIEC et la confession de M. Pachauri, il n'y a pas longtemps, quand il a présenté le dernier rapport, selon laquelle ce n'était pas à jour. C'est une gouvernance vraiment globale, là, qu'il faudrait de ce problème. Et c'est, d'une certaine manière, un Manhattan Project à l'échelle internationale qui utiliserait à la fois l'innovation décentralisée, à la fois la propriété intellectuelle, mais suffisamment diffusée, bien entendu, mais aussi des instruments de politique publique et de politique de collaboration internationale dans l'esprit de ce qu'a illustré tout à l'heure Roger. Manhattan Project. Comme vous le savez, c'est le projet qui a été lancé aux États-Unis en 1940 à la suite de la fameuse lettre écrite par Einstein au président Roosevelt et qui a initié, telle était la peur du développement de la bombe atomique par les nazis, a initié le programme de construction à la fois d'ailleurs des réacteurs et de la bombe par les Américains. Entre parenthèses, pourquoi Manhattan ? Parce que les premières recherches ont été faites à Columbia. Souvent, j'ai entendu cette métaphore pour décrire ce problème et la solution, l'ampleur de la solution nécessaire à ce problème du captage du CO2. Est-ce que cette métaphore n'est pas exagérée ? Est-ce qu'elle n'est pas emphatique ? Permettez-moi de terminer sur une note personnelle. Très franchement, vu tout ce que nous voyons les uns et les autres, les informations que nous avons, le scepticisme que nous avons quand même sur le fonctionnement efficace et rapide d'institutions internationales, je pense sincèrement que de la même manière que le nazisme et la guerre ont pourri la vie de mon père, le climat, dans ces dérèglements, si nous n'arrivons pas à les arrêter, pourrira la vie de mon petit-fils. Très bonne équipe de Cambridge, Royaume-Uni.